Florian Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu plus en détail, par épisode. Nous avons choisi l'héritage de Cavanna, oui, le Cavanna de Harakiri et de Charlie Hebdo. François Cavanna est né en 1923 d'un père italien et d'une mère française. Il a vécu à Nogent-sur-Marne dans ce qu'il appelle lui-même une rue aritale. Et donc dans son livre, il raconte son enfance, la France des années 30, dans sa banlieue parisienne, avec un langage assez cru, assez imagé, qui se veut le langage de l'enfant qu'il était. Aujourd'hui, trois épisodes. Le premier intitulé « Le camion » ou « Les malheurs d'un pauvre chauffeur ». Le second intitulé « Le pavillon », l'histoire du pavillon du tonton, une histoire qui se termine assez mal. Ce sont deux histoires qui donnent, je trouve, une bonne idée de ce qu'était le milieu populaire des années 30. Et puis on réécoutera un épisode intitulé « Vercingétorix » qui parle de l'intégration de la communauté ritale.
Le camion. Un jeudi avec Roger, on revenait de traîner je ne sais pas où. Il était vers les midi et demi. On se maniait le train, on crevait de faim, on allait se faire engueuler, mais on connaissait la parade, ne pas se séparer. Où il venait bouffer chez moi, où j'allais chez lui, en tout cas tous les deux ensemble. Si Roger venait rue Sainte-Anne, maman se retiendrait de râler parce qu'elle l'aime bien. Cet air de santé insolente qu'il a, ça la fait fondre, maman. Ça lui arrondit le caractère, la rend toute admirative. Elle le regarde dévoré, ravi. Je bouffe autant que lui, mais moi je ne suis que moi. Lui, c'est l'autre, celui qu'elle aurait préféré avoir. Tout ce qui n'est pas moi est le fils qu'elle aurait préféré avoir. Pas très réchauffant pour un môme déjà trop porté à s'examiner critique et à pas être tellement content du résultat de l'examen. Elle y va à plein gaz. Ah, ça fait plaisir à voir un bel appétit comme ça. Regardez-moi comme il mange. Et ça lui profite au moins. Quelle bonne joue, quel bon bras. Et merde, elle-même comme une louve aime son petit et se ferait passer dessus par le tramway pour moi. Mais moi, j'en ai rien à foutre du tramway, la scie en trois. Je la préférerais un peu moins con. Elle me démolit de haut en bas avec sa saloperie de langue de vipère. C'est qu'elle sait s'en servir. Ouh là là, elle sait où ça fait mal. Je me demande si c'est seulement de la connerie, cette rage d'aduler les mômes en sucre-d'orge de ses patronnes bien-aimées, de sans cesse me comparer à eux pour mieux me plonger le nez dans mon caca. Je me demande s'il n'y aurait pas en plus une espèce de truc malsain qui la pousse à me rabaisser pour voir jusqu'où je peux supporter sans me foutre par la fenêtre ou lui balancer la main sur la gueule. Ce qui finira bien par arriver. Ce jour-là, elle le tiendra, son drame historique, on n'a pas fini de l'entendre. Quand un pote vient me chercher, je me grouille de descendre pour pas laisser le temps à maman de commencer ses simagrées. Qu'il est bien élevé, ah, c'est pas lui qui répondrait grossièrement à sa mère. N'est-ce pas que vous ne répondez pas grossièrement à votre mère ? Le pote, tout emmerdé. Si c'est moi qui vais chez Roger, sa mère met un couvert de plus et c'est marre. Elle me bourre de risotto ou de spaghetti, elle engueule Roger parce qu'il est en retard, elle m'engueule aussi. Roger l'envoie se faire foutre, elle y va. Elle y va sans se lever de sa chaise, qu'elle fait marcher avec elle à cause des ulcères. La mère de Roger Pavarini est grande, mastoc, blonde, les joues vermeilles avec dessus plein de petites veines rouges qui font des dessins, taillées comme un bonhomme costaud. Elle est de l'extrême nord, vers le lac Majeur, par là. L'héritage de là-haut, c'est carrément des Allemands, des Tedeschi. Je l'ai toujours connue avec des kilomètres de bande velpeau autour des jambes. C'est parce qu'elle elle sent trop fort. Quante que le sangue, il est plus fort que le corps, alors tout ce que tu manges, il se tourne en sang, et alors du sang, il y en a de trop. Et alors, il n'y a plus assez la place pour tout ce sang, et alors, celui-là qui est en bas, il n'a plus la place pour monter en haut. Il pousse, mais il ne peut pas, et alors, il reste en bas. Va bene, ma quelque parte fou qui va, non? Alors, tellement qu'il est fort, il fait péter les veines, il fait les trous pour sortir dehors, et voilà, et proprio l'ulcero. L'ulcère va avec eux, c'est comme le coup de sang, ça vous attire l'admiration respectueuse des voisins. C'est une maladie de trop de force, une maladie de bonne santé. D'un qui mord d'apoplexie, on dit, il a tellement de santé qu'il en est mort. Un jeune homme ou une jeune fille dont le père ou la mère est un jour tombé foudroyé le visage violé, trouve facilement à se marier, parce que ça veut dire que dans la famille, le sang est fort. Dieu bénit les gros bras et les trognes rubicondes. Ce sont les marques de sa grâce. Les palots, les maigrichons, les mauviettes, non seulement ils ne sont pas capables de porter 90 kg de plâtre de Paris sur leur dos, jusqu'au sixième étage par l'échelle, et alors comment voulez-vous qu'ils nourrissent une famille? Mais en plus on les méprise et on les brime, ça commence à la communale. La mère à Roger, quand l'ulcère la mord bien fort au jarret, elle ne peut plus tenir debout. Elle fait tout sans quitter sa chaise. C'est une chaise ordinaire de cuisine solide. La mère à Roger est du genre méticuleux, faut que sa maison rutile. Alors elle cavale partout sans lever le cul de sa chaise. Elle se cramponne des deux mains au siège et elle sautille ensemble, la chaise et elle, poc, poc, poc. Elle balaye un coin, fait trois petits sauts assises, poc, poc, poc. Du bout de son balai, cueille le tas de poussière et le pousse de la longueur de son bras prolongé par celle du manche. Passe le chiffon sur les moulures et les plinthes aussi loin qu'elle peut, vérifie qu'elle n'oublie pas le moindre mouton, sautille plus loin, poc, poc, poc. Elle y met le temps, mais pas un centimètre carré n'échappe. Elle lave, repasse et fait la cuisine assise. Roger lui fauche une poignée de bifton dans le morlingue pendant qu'elle est à l'au bout de la cuisine. Elle le voit, hurle, balance un fer à repasser à la tête de Roger, le rate, ou plutôt il esquive. Le temps qu'elle s'amène, elle et la chaise, poc, 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 Roger s'est barré en se foutant de sa gueule, tralalère. C'est comme ça chez les Pavarini. Heureusement, le père s'est mis à son compte, peintre en bâtiment. Il gagne des sous gros comme lui. Ça, c'est de maman, ça. Sa femme peut se permettre de rester à la maison à se dorloter. Oui, j'étais parti pour vous raconter le camion. Ce jour-là, jeudi, on remonte la rue de Plaisance, Roger et moi. Roger me dit « C'est pas le camion qui a arrêté, là ?» Oui, c'était le camion. Le camion, c'est le camion de la maison, la seule, l'entreprise des Cavana et des Taravella, pour laquelle nos pères travaillent ou ont travaillé, une fois ou l'autre, comme tout ce qui tient une pioche, une truelle, ou une brosse à plafond dans le canton de Nogent, Champigny, Le Perreux, Brie, et dans les immeubles de qui nous habitons. Mes parents, rue Sainte-Anne, ceux de Roger, rue des Clamart, le patron, la maison, le chantier, le camion. C'était donc le camion, vénérable et vénéré, arrêté au bord du trottoir, et deux pieds qui dépassaient de dessous. Les pieds, nus dans des grolles croûteuses de ciment sec, sortait d'un vieux pantalon de bleu de travail dont les jambes allaient se perdre sous le camion. « Ça sera le Nin, je dis. » Le Nin, c'est Nino. Petit nom gentil pour Girolamo, Jérôme. Jérôme Cavana. Non, il n'est pas de la famille. Qui est marié à la Marie Taravella. Celle-là, oui, elle est de la famille. Si bien que, tout compte fait, il en est aussi. La fille à Dominique, dit Tric-Trac, le Dominique, le patron. Le Nin est le chauffeur du camion, poste prestigieux. Et je dis à Roger de la voix prudente, écoute, ça cause là-dessous. On s'est arrêté, on a tendu l'oreille. Ça causait, une voix de dame, distinguée comme tout, qui disait ceci. « Mais qu'est-ce qui fait à votre mari comme métier, sère madame, si j'ose demander ?» Et la voix d'une autre dame, très tasse de thé, qui répondait. « Sère madame, mon mari, il fait le souffleur. » Alors la première dame a pris un long sifflement d'admiration. « Souffleur, belle situation !» Et d'un seul coup, la voix du Nin, d'abord crachée entre ses dents, effroyable de colère rentrée et qui monte, et s'éclate. « Dio te stromole di salat situazione, orca madonna bella situazione, si che possa tornare tutta in merda !» Là, bruit d'hiver violent, clé anglaise contre de la tôle, coup de talon dans le pavé de la rue de Plaisance, cri inarticulé, sanglot de rage. Ça se calme quelque temps. Ça farfouille, clé sur écrou, 3-4 gémissements d'impuissance, puis « Bonjour, sère madame !»« Bonjour, sère madame !» « Ça va comme vous voulez, vie ?»« Ma, faut pas se plaindre, sœur madame, quand qu'il y a du travail et la santé, comme on dit. »« Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait, votre mari, sœur madame, si ça ne sera pas indiscret ?»« Mon mari, il fait le souffleur, chère madame. »« Souffleur, belle situation !» Un silence, le Nin prend son élan. « Dio te stramaledissa situazione !» Et la suite. Roger et moi, pliés en deux, on s'étouffait. On est resté là à écouter le monologue du Nin jusqu'à ce qu'il en ait eu marre. Il a recommencé comme ça 5 ou 6 fois depuis le début. Toute la misère de la condition humaine était là-dedans. La gueule dans la boue avec ce putain de cambouis qui lui coulait dans les yeux, cette putain de ferraille de merde qui lui retournait les ongles et qui lui comprenait que dalle, il touchait le fond du malheur. et il avait trouvé ça pour cracher sa colère ravageuse, sa haine totale du monde, de ses camions, de ses beaux-pères et de la peau de vache de bon dieu de merde qu'il avait créé, pour le coller sous un camion en panne au milieu de la rue de Plaisance, un jour de pluie à midi. Il singeait sa femme minaudant avec une commère qui la félicitait, l'horrible conne, pour la belle situation de chauffeur de son mari, et à chaque fois, la scène trop bien évoquée le projetait dans une explosion de rage dévastatrice et vengeresse, donc libératrice. Faut être ital pour comprendre. Quand enfin il a surgi de sous le monstre noir, hagard, les mains en sang, on a fait ceux qui arrivaient tout juste. On lui a dit « Bonjour Nin, ça va ?» Il nous a dit « Ça va ?» Puis il a secoué la tête. Il a eu un geste vers le camion, il a dit « C'est le camion ». Et il est allé déjeuner. On l'a vu s'éloigner, s'essuyant les mains à un chiffon sale et faisant des petites mines tout en marchant, et c'est comme si on l'avait entendu. « Et alors, sœur madame, qu'est-ce qu'il fait à votre mari ?» Se plantant soudain, jambes écartées et poings serrés au milieu du trottoir pour cracher vers le ciel le blasphème suprême, le grand Dio Testra Maledissa du désespoir total. Le pavillon. Mon oncle Jean, le frère de papa, habite à Fontenay. Il ressemble à papa, mais en plus lourd, plus épais, moins fignolé. Il a un beau lourd nez. Il est bien brave, un peu lent. Je le voyais de loin en loin autrefois, quand papa, au hasard d'une de nos promenades d'hiver, m'emmenait jusque par là. Maintenant, je le vois pour ainsi dire jamais. Je crois que maman l'aime pas tellement, et quand on plaît pas à maman, elle s'arrange pour vous le faire sentir. Avec tact, qu'elle croit. On est une drôle de famille, finalement. Dans les années tout de suite après la guerre, mon oncle Jean a gagné beaucoup d'argent. En tout cas, c'est ce que maman dit. Il nous regardait de son haut, ajoute-t-elle. Va, que je me dis à moi-même, t'as beau faire le fier avec tes sous, n'empêche que t'es comme les copains, ton cul embrasse ta chemise. Maman, elle est comme un de ces prophètes noirs et jaunes décharnés soufflant la fièvre qu'il y a dans les pages d'Histoire Sainte de mon catéchisme, et qui allait parcourant les campagnes sur leurs jambes de sauterelle, engueulant les gens et les montrant du doigt pour leur prédire les pires vacheries, tout content que ce soit au nom de la justice et de la colère de Dieu. Comment il avait ramassé ce fric, mon oncle Jean ? Oh, c'est simple, ils n'ont pas d'enfants. Je veux dire, lui et sa femme, ma tante Dominique. Pas d'enfants, c'est la belle vie, du poulet à tous les repas et des fraises à Noël, tout le monde est bien d'accord. Les enfants, qu'est-ce que ça coûtait cher, Madame Louville ? Disent les matrones, qui escaladent des grappes de morveux. Vous en avez la chance, vous, que vous avez qu'un seul seulement. Pourquoi, en plus qu'il y ait un sol de la minestra, il vous mange moins comme cinq ? En plus, vous n'êtes pas obligé de rester à la maison, et vous pouvez les travailler dans le matin jusqu'au soir. La voisine ajoute mutine avec un rien d'excès pour bien montrer qu'elle plaisante et qu'il ne faut surtout pas la prendre au sérieux. « Qu'est-ce que vous devez en avoir des sous dans l'armoire, Madame Louville ?» En général, à partir de là, la conversation tourne mal. Mon oncle Jean, donc, n'ayant pas d'enfant, égoïste, fumait des cigares. Cette source négative de revenus me paraissait quand même un peu insuffisante, jusqu'au jour où j'ai appris qu'il avait longtemps travaillé dans l'Est, dans ces immensités grises et boueuses où l'ébauche pendant 4 ans avait coupé les mains des petits-enfants et cassé toutes les maisons. Un plâtrier, payé à la tâche, faisait là-bas des semaines fabuleuses, à condition d'en mettre un furieux coup. Logé dans les cabanes de chantier, nourri à des cantines, ils ne dépensaient pour ainsi dire rien, restaient 1 an sans voir leur femme, qui les trains y coûtaient cher, les trains. Faisaient un saut dans le lit conjugal pour la Noël, plantaient vite fait leurs graines de rital dans le ventre de l'épouse, pendant qu'elles ravaudaient leurs grandes blouses blanches en toile de bâche et couraient en se reboutonnant rejoindre leur roger de plâtre dans les brouillards et les betteraves au diable ouvert, avant qu'ils ne figent. Ça travaille des 12 et 15 heures par jour, explique maman, ça respecte même pas le dimanche. Pas étonnant que ça devienne riche comme Rothschild. Il y en a, ils en ont jamais assez. Elle est comme ça, maman. La goinfrerie de travail devient dans sa bouche la plus haute des vertus ou un vice crapuleux, ça dépend du contexte. Un plâtrier, mais alors un qui ne fait que le plâtre, un tâcheron payé au mètre carré, ça vit pas très vieux. C'est un boulot où il faut se remuer, une course contre la montre entre le bonhomme aux yeux plus grands que le ventre qui remplit toujours trop son auge afin de couvrir une plus grande surface d'un seul coup, comme ces couturières qui se préparent des aiguillettes feignantes et le plâtre qui prend toujours plus vite que tu croyais. Tu te baisses, tu te charges la taloche avec la grande truelle de cuivre, tu te relèves, tchac tchac, tu vides la truelle. La taloche sur le mur en giflant sec, tu traînes la taloche pour étaler le plâtre, et là tu comprends ta douleur. Vite, un coup de règle, un coup de bertelet pour racler. L'apprenti apporte déjà le sac et les seaux d'eau de la gâchée suivante. Tu replonges dans l'auge, c'est reparti. T'arrêtes pas, tu ruisselles, tu respires la gueule grande ouverte comme un poisson parce que t'as les narines collées au plâtre qui te bourre les poumons et te fait crever avant la cinquantaine. Il y a même une chanson. C'est le bon plâtre de Paris qui a fait crever mon mari. Un plâtrier, ça se reconnaît de loin, comme un boulanger, biscotto de lutteur et joue de papier mâché, sans compter le jaja qu'ils descendent pour se désemplâtrer la bouche. Toujours du blanc qui donne du nerf et qui présente l'avantage de pouvoir se siffler dès le petit matin. 6-8 litres dans la journée s'il ne fait pas trop chaud, au-delà ça devient de la gourmandise. L'homme est sur la mauvaise pente. Les plâtriers spécialisés dans les plafonds, c'est payé plus cher du mètre carré, présente en outre une courbure permanente de la colonne vertébrale vers l'arrière, très marrante. Ça leur donne l'air crâneur. On dirait des bananes qui marchent ou des garde-boue de vélo. C'est de traîner la taloche en l'air d'avant en arrière sur l'échafaudage à ras de plafond qui les arrange comme ça. Mon oncle Jean, comme papa, comme la plus claire des maçons Rital, fait de tout. La brique, la meulière, le béton armé, les enduits, le terrassement, on dit la terrasse, le plâtre, la charpente, sauf si c'est trop de dentelle, la couverture, la grosse plomberie, le carreau de faïence, si tu regardes pas à la loupe. Il n'y a qu'une spécialité à laquelle les maçons ne touchent pas, qui leur inspire une terreur sacrée, l'électricité. L'électricité, il est bestial. Tu tousses un petit fil de rien du tout et plaf, t'es mort. Et que si tu vois pas et que tu veux aider ton copain, plaf, t'es mort aussi. Il a un trou du diable, cette affaire-là. À 12 ans, j'étais le seul être vivant dans toute la rue Sainte-Anne à savoir et surtout à oser changer un plomb sauté. On venait me chercher comme le docteur ou le curé, on me regardait officier à bonne distance. Les mères retenaient leur marmaille curieuse. Bouge pas, que si François il se prend l'électricité dans le corps, ça fera une flamme tanta grande qu'elle te brûlera tout vivant toi aussi. Oui, mon oncle Jean avec ses sous s'était acheté le terrain pour se faire le pavillon. C'était un terrain tout en longueur, un ruban de glaise à choux de Bruxelles et à ressort de sommier très étroit, juste la largeur d'une maison. Pour passer de l'autre côté, il faut traverser la maison. À cause de la façade. Dans les terrains, c'est le côté en façade sur la rue qui coûte cher. Enfin bon, mon oncle Jean avait son terrain. Il était le premier de la famille à posséder quelque chose. Papa était tout fier. Il faisait attention de ne pas trop le laisser voir devant maman. En attendant que le pavillon pousse, mon oncle Jean avait loué un petit garni dans un hôtel meublé qui se trouvait juste en face de son terrain, de l'autre côté de la rue. Quand il avait travaillé tout le dimanche comme un sauvage à son pavillon, le soir, il se mettait à la fenêtre et il regardait les murs sortir de terre, et en même temps, il les sentait dans ses bras et dans ses reins. En ce temps-là, il n'y avait pas de semaine anglaise, il n'y avait que le dimanche. Il aurait voulu, dans son dimanche, en abattre autant qu'il en abattait pour les autres en une semaine. Si papa, par inadvertance, disait devant maman, « Il est courageux, mon frère, de faire ça tout seul. » Elle lui rétorquait aussi sec qu'il avait son neveu Albert qui l'aidait bien. C'était d'ailleurs vrai. Albert avait dans les 15 ans et s'échinait comme une bête, avec l'ongle, sous l'œil de la tante qui tricotait sur un pliant. Il l'avait recueilli tout petit et élevé. Sa mère, sœur de ma tante, était morte et son père aussi. Je ne me rappelle plus des détails, simplement que tout le monde était mort. Si bien que mon oncle Jean n'avait pas d'enfant, quand il s'agissait de fustiger son égoïsme, mais en avait un, et un costaud, et un pas feignant, quand c'était son exploit de bâtisseur solidaire qu'il fallait rabaisser. Papa aussi, je pense, allait donner un coup de main à son frère de temps en temps en cachette. Naturellement. Il avait vu grand, mon oncle. Son pavillon devait être une grosse maison à deux étages et grenier, avec un sous-sol sous tout le bâtiment, et un grand beau perron devant. Aussitôt que la dalle de béton au-dessus du sous-sol fut coulée, mon oncle, ma tante et Albert vinrent camper dans le sous-sol. Ça économisait le loyer. Il n'y avait pas l'eau, juste un robinet dehors, et pour vider les baquets d'eau sale, on devait monter puisque c'était en sous-sol. Ce qui explique qu'il fallait qu'il gèle vraiment très fort pour que ma tante ne fasse pas sa lessive en plein air. Il n'y avait même pas l'électricité, mais une grosse lampe à pétrole pendue au plafond, un plafond où je me cognais la tête si j'oubliais de rester courbé. L'eau coulait le long des murs de ciment brut. Un poêle tortillait son tuyau par un trou découpé dans une tôle mise à la place d'une vitre. Ils s'installèrent joyeusement dans ce provisoire, rêvant sans impatience au jour triomphal où ils quitteraient leur trou à rats pour les opulences délices des étages nobles. Ma tante choisissait des papiers peints, cousait des rideaux. Brique sur brique, dimanche sur dimanche, année sur année, le pavillon s'arrachait à la glaise. Un jour, il fut hors d'eau. La dernière tuile couvrit le dernier rectangle de vide. La maison était à l'abri des caprices du temps. Ce qui était fait ne se déferait plus. Il restait à crépir les murs, dehors et dedans, à poser planchers et huisseries, les canalisations et l'escalier. Tout ce qui n'est pas le gros œuvre, tout ce qui coûte le plus cher. S'agissait de ne pas laisser refroidir. Et alors, ce fut la crise. La crise. 1929 et la suite. Chômage. Quand le bâtiment va, tout va. Corollaire, quand tout va mal, le bâtiment est depuis longtemps au fond du trou. Mon oncle Jean eut du temps libre à consacrer à son pavillon, des flopées de temps libre, mais pas un rond pour acheter un sac de ciment ou une bottelée de frise à parquer. Le pavillon se figea là où l'avait saisi la crise. Se figea. Commença à se dégrader. La brique creuse non protégée s'émietta en lamelles. Les crosses des ferrailles en attente, rouillèrent, bavèrent en longs dégueulis brunâtres. La crise finit par passer plus ou moins, mais l'élan était cassé. Mon oncle Jean se faisait vieux. Ma tante avait toujours mal ici ou là. Ils s'étaient moulés à leur sous-sol, y avaient leurs habitudes de cloporte. Ce monstre inachevé au-dessus de leur tête les écrasait. L'énormité de ce qui restait à faire les accablait. Mon oncle parlait toujours du temps où le pavillon serait terminé, mais ne faisait plus un geste. Ce qu'il gagnait permettait de vivre, rien de plus. Jusqu'au jour où il ne put plus travailler. Il vendit la maison en viager, dans l'état où elle était, et se fit naturellement magnifiquement truander. L'emplacement en plein Fontenay avait pris de la valeur. La croix qu'il gribouilla au bas de l'acte de vente disait « Halte, c'est la fin de la route ». Ça leur laissa juste de quoi ne pas crever. Il est vrai qu'ils avaient les légumes du jardin, c'était quand même appréciable.
A ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. And finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
got a fast car? Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Vercingétorix. Les ritales, on est mal piffé. C'est parce qu'il y en a tellement par ici. Les mômes français ne risquent pas le bout de leur pompe dans nos rues à ritales, mais à l'école, là, ils se rattrapent, se sentent costauds, les petites vipères. On voit bien que leurs parents ne se privent pas de débloquer sur nous autres à la maison. Tiens, rien que le genre de vacherie que ces merdeux nous balancent, ça pue la connerie de leurs vieux. Les ritales, vous êtes bons qu'à jouer de la mandoline. De la mandoline, j'en ai seulement jamais vu. L'idée de mon père jouant de la mandoline. Dans votre pays de paumé, on crève de faim, alors vous êtes bien content de venir bouffer le pain des Français. Bah, pardi, c'est normal, non? S'ils se laissaient mourir sur leur tas de cailloux, les ritales, on les traiterait de feignants. Ils vont là où il y a à bouffer. Là où un gars avec deux bras et du cœur au ventre a une chance de dégoter un crouton au bout d'une journée de sueur. Les Français, ils sont bien contents de le vendre, leur sacré fameux pain français, à ces gros ploucs si travailleurs, si bien élevés, si humbles, qui se coltinent les brouettées de béton à leur place. Eux, les prolos français, leur rêve, c'est de devenir fonctionnaires. D'entrer à la poste comme télégraphiste à vélo ou à la cartoucherie de Vincennes, qu'il pleuve ou qu'il vente, t'es à l'abri. Et à la fin du mois, la paye tombe. Des métiers de gonzesse. La preuve, leur mère y bosse aussi. Elles font les mêmes boulots qu'eux, juste les mêmes. Elles se mettent du rouge à lèvres et elles ont des indéfrisables. Des vrais poufias d'usine. Faut voir ce qui se passe derrière les tas de caisses d'obus. Hein. Si tu veux pas être mal vu par le contremaître, faut que tu les écartes. Et le mari ferme sa gueule, trop content, tu parles. Sa bonne femme va se faire des heures supplées. Ils pourront s'acheter le tandem pour partir à la mer. Ils nous disent encore, les petits haineux, « D'abord, les ritales, vous n'êtes pas des soldats. Si les Français n'étaient pas là pour vous donner un coup de main, vous vous faites déculoter par les boches à tous les coups. » Ça, oui, ça me mouche, ça. Les petits ritales ont beau raconter que l'armée italienne s'est toujours battue à 1 contre 100. Ben, un rital sans boche, hein, naturellement. C'est vrai que l'Italie n'a pas gagné beaucoup de guerres. Alors là, je me sens français à bloc, comme maman. Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Guinemer et tout. Guinemer, c'est son héros à maman. Elle en pleure encore quand elle repense à tout ce qu'elle a pleuré le jour où elle a vu dans le journal qu'il était mort, tombé en plein ciel de gloire. Même que le boche qu'il avait descendu, lâchement par derrière, autrement c'est pas possible, était venu avec son avion à l'enterrement et avait laissé tomber une couronne, une belle qui avait dû coûter cher, juste au-dessus de la tombe. Et la couronne avait encerclé la croix. Oh, faut drôlement savoir viser, surtout qu'en avion ça va vite, hein. Ils sont pas mal non plus comme aviateurs, les boches. Le journal, il est dans une boîte, c'est le matin, tout jaune, tout cassé au pli. Et dans la boîte, il y a aussi les photos des frères de maman, mon oncle Louis et mon oncle Baptiste, habillés en soldats de la guerre. Ah, et aussi la photo du mariage de maman, avec toute la famille française. Ils ont l'air vachement pas commodes, tous. On voit qu'ils étaient pas trop fiers qu'elle se marie un rital, qui savait ni lire ni écrire, même pas parler français. Et qui chiquait, et qui leur crachait tout noir au ras des pinceaux. Je dois dire que moi non plus, je comprends pas bien ce qu'il lui a appris à maman. Surtout qu'elle était belle, hein, dans le genre chat sauvage. Va savoir. Comme étranger, par ici, il n'y a que les ritales. Papa m'a dit que dans le nord, c'est plein de polacs, des grosses brutes, des vraies bêtes sauvages. Ils arrachent les betteraves, c'est tout ce qu'on peut leur demander. Et encore, si t'es pas tout le temps derrière leur cul, ils les cassent avec leurs grosses pattes de polac. Ils salopent tout. Ou alors, ils vont dans les mines piocher le charbon. Mais le bâtiment, il pourrait pas, c'est trop fin, trop délicat. Faut avoir l'œil juste, faut penser avec la tête. Il y a bien aussi les Russes, mais les Russes, c'est pas des étrangers, ils font des métiers de Français. Les Français ne les méprisent pas, ne se foutent pas de leur gueule à l'école. C'est eux qui méprisent les Français. Il paraît que c'est tous des princes et des marquises et qu'ils se sont sauvés à cause des bolcheviks qui tuaient tous les aristocrates. Les Français ne les aiment pas beaucoup. Les Français, ils n'aiment personne. Mais on sent qu'ils ont de la considération parce que ce n'est pas des vrais pauvres, mais des gens riches qui ont vécu des choses très tristes, comme dans les feuilletons. Je connais bien Litvinov et les frères Lichkin. C'est des copains d'école. Je suis même allée chez eux. C'est plein de tapis partout. Mais même au mur, hein. Et plein de photos, de vases, de bougies allumées en plein jour, de drôles de Sainte Vierge, des icônes, ça s'appelle. Ils sont marrants, ces gens-là. Ils foutent l'argent en l'air pour des conneries. Et pourtant, ils sont aussi pauvres que nous. Mais je sais pas comment ils se démerdent. Même tout dégueulasse, plein de trous, ils ont pas l'air petit monde comme nous autres, qu'on est pourtant toujours bien propres et bien reprisés. Maman dit que c'est des bohèmes. Français, Rital, les Russes s'en foutent. Pour eux, tout ça, c'est le même croquant. Eux, ce qu'ils peuvent pas piffer, c'est les Juifs. Avant de connaître les mômes Ruskov, je savais même pas ce que c'était qu'un Juif. Je devais avoir 6 ans, j'étais dans la classe de M. Cluzot. À côté de moi, à la même table, il y avait un Russe. Il s'appelait Chenderovitch. À la table devant, il y avait 2 Russes. À la table derrière, 2 autres. C'est là que j'ai vu que Chenderovitch n'était pas un Russe comme les autres. Ces sales cons étaient méchants avec lui, on n'a pas idée. D'abord, je ne comprenais pas. Il n'était pas bossu, ni boiteux, ni bigleux, ni bégayeux. Enfin, rien de ces trucs qui font qu'on ne peut pas s'empêcher de faire chier un mec du matin au soir. Il lui disait tout le temps « sale juif ». Fumier de youpin pourri. Il lui balançait des vacheries en russe qui le faisaient chialer et le foutaient dans des crises de rage épouvantables. Alors, ils cassaient tout, leur tapaient dessus, criaient comme un fou, mais eux évitaient les nions, ricanaient et se tapotaient la tempe avec le doigt. Il me disait « Il est dingue, tous les juifs sont dingues ». Le père Cluzot faisait venir Chenderovitch au tableau et lui cinglait les mollets avec sa règle. C'était son vice à ce con, cingler les mollets. Et Chenderovitch gueulait « C'est pas juste, c'est les autres salauds ». Mais Cluzot allait pas chercher plus loin. Il tapait jusqu'à ce que les mollets soient tout noirs. Et après, il mettait Chenderovitch au piqué. À moi aussi, il me l'a fait, hein, le coup des mollets. Et maman m'a demandé « Où que t'as eu ça ?» Et moi, j'osais pas lui dire parce que j'avais bavardé en classe. Et à la fin, je lui ai dit. Elle a foncé chez le Dirlot, le père Garnier, et Cluzot a dû se faire salement engueuler. En tout cas, il a plus recommencé. L'année d'après, il s'est suicidé, ce con-là, en se couchant sur la voie devant un train. Preuve que ça tournait pas rond, hein. Enfin bon, comme étranger mal piffé, il n'y a que nous, les Rital. C'est nous qu'on éponge tout. La crise, c'est de notre faute. Le chômage, c'est nous. Mussolini qui fait le con, c'est pour nos pieds. Je vous l'ai dit, pour les Rital, je suis un bâtard, plus qu'à moitié français. Mais pour les Français, pas de problème. Ils me traitent de macaroni et me chantent « As-tu vu Négus à la porte d'Italie qui secouait les puces à Mussolini ?» Négus ? Négus, c'est le roi d'un pays de négros là-bas en Afrique. Les Italiens lui sont rentrés dans le chou avec leurs avions et leurs tanks. Et naturellement, ils sont encore en train de prendre la tripotée, ces cons-là. Se faire casser la gueule par des négros tout nus qui n'ont rien que des lances et des arcs à flèches. Merde. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans Paris Soir. Depuis que cette espèce de guerre est commencée, on nous fait vraiment chier. Surtout les mômes. Chez la boulangère de la Grand Rue, quand mon tour arrive, cette grosse vache fait exprès de servir tous les gens qui sont derrière moi, rien que pour pouvoir me dire que du gros pain au kilo, il n'y en a plus. Il n'y a que du fantaisie ou de la viennoise, et ceux qui sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner chez eux, voir si le pain est meilleur. Même les profs à l'école, hein, ils peuvent pas s'empêcher de nous faire sentir qu'on est des cubénis, de la graine de fascistes, eux, laïcs, républicains, et Jules Ferry comme des fous. Ces andouilles-là ne se rendent même pas compte du boulot qu'ils ont fait sur moi. Cubéni, je l'ai été. Ah ouais, et de tout mon cœur. Pas jusqu'au mysticisme, j'ai pas le tempérament, mais de tout mon besoin que les choses tiennent bien ensemble et qu'il y ait là-haut un grand-père avec une tête très intelligente, responsable de tout. L'abbé n'aimait guère cette foi trop ardente et trop raisonneuse. Je m'en rends bien compte maintenant. J'avais beau être le premier à l'examen du catéchisme et marcher en tête du cortège de la première communion avec mon cierge et mon brassard, ils préféraient les petits ritals pur jus, bien gnangnan, bien lèche-cul, qui se contentaient d'avoir peur de Dieu et ne cherchaient pas à faire sa connaissance. L'abbé avait du flair. La foi m'a quitté comme une dent de lait. Non, elle m'a pas quitté. Je l'ai virée. Foutu dehors à coups de pompe dans le cul. Et c'est bien à vous que je le dois, vous, mes instits de la communale, pourtant pas spécialement bouffeurs de curé. À vous surtout, mes profs de l'école suppée, à nos gens, ce qu'ailleurs on appelle cours complémentaires, c'est-à-dire après le certif et jusqu'au brevet, et un truc spécial, expérimental peut-être bien, une superbe école primaire supérieure toute neuve, en briques rouges, qui domine la vallée de la Marne et où l'on a droit à des professeurs agrégés, comme au lycée, dis donc. Amphithéâtre de physique-chimie, laboratoire pour travaux pratiques, terrasse panoramique pour peindre des paysages, un machin terrible. Je peux dire que j'ai du pot. À vous, portalier brut, superbe, gueule énorme, sûrement plus qu'à demi-dingue. À vous, Bernadac, bonnet dit Nabucodonosor, dit Nabu, le Greneur, tous les autres. Vous ne soupçonnez pas, vous ne saurez jamais quel formidable boulot souterrain vous faites. Pour vous, je suis l'emmerdeur, dissipé peut mieux faire. Le sale petit con ricanant qui gâche ses dons et empêche les bosseurs de bosser. Vous m'avez décollé les yeux et décrassé le dedans de la tête. Vous m'avez donné le goût, le besoin, la faim dévorante des choses claires, clairement conçues et clairement énoncées. Vous m'avez montré l'architecture du monde et fait entrevoir l'architecture du savoir. Vous m'avez fait goûter au haut plaisir d'apprendre, à celui mille fois plus éblouissant de comprendre, d'entendre cliqueter allègrement mes petits palpeurs intimes et de voir s'allumer toutes les lampes quand la solution soudain, plof, jaillit, que tout s'en mange, ric-rac. Vous m'avez donné la curiosité, le doute et l'insatisfaction. Vous m'avez écarté des voies sombres et tentatrices, ou plutôt, vous m'avez appris à en goûter les séductions troubles sans m'y brûler les pattes. Vous m'avez bien fait chier avec Corneille et Racine, et l'autre poseur, là, Chateaubriand, mais vous m'avez fait pleurer de bonheur à Molière, à La Fontaine, à Rabelais. Ouais, vous avez fait tout ça. Vous m'avez mis au monde, tout beau, tout neuf, et vous n'avez rien senti. J'avais 4 ans, 5 à tout casser, quand m'a empoigné le vice qui ne m'a plus jamais lâché, qui ne fait que croître et embellir, qui me possédera tripes et boyaux tout au long de ma vie. Ça, j'en suis bien sûre. Ce vice, c'est l'imprimé. Les enfants de Pouilleux, on est avantagés au départ. À peine pondus, nous voilà à la crèche, puis à la maternelle, rodés de bonne heure à l'école, pas de cassure. Ma crèche était celle des bonnes sœurs, rue Cabi. Mon école maternelle, celle du boulevard Gallieni, la grande belle pleine de jolies peintures de fleurs et de gentilles bêtes sur les murs. À 4 ans, tu commences tes lettres. B, A, BA. Lulu a bu le lolo de Mimi. À 5 ans, dictée du samedi matin. Si tu fais zéro faute, t'as la croix. D'honneur. Dorée avec de l'émail bleu dedans. De mérite, alors sans émail. Ou croix d'horreur et croix de marmite, disent ceux qui ne l'ont jamais. Chaque samedi midi, maman m'attendait sur le trottoir. Du fond du vestibule, je courais à elle. « Maman, j'ai zéro faute !» Elle, pas crâneuse, « Tiens !» Les voisines de la rue, j'almince. « Ma, qu'est-ce qu'il est intelligent, votre François !»« Madame Louvet !» Une femme mariée porte plutôt le prénom de son mari que son nom de famille, surtout quand il risque d'y avoir confusion avec une dame plus considérable. Dire « Madame Cavana » serait presque blasphématoire à l'égard des Cavana plus huppés. Le manant n'a rien à gagner à porter le nom du Seigneur. Des signores. Maman, c'est Madame Louis. Ou même Madame Gros Louis. Les commerçants où je vais faire les commissions l'appellent Madame François. Ils apprennent bien votre François, Madame Louis. Il a la tête qu'il apprenne tout ce qu'il veut. Ça sera fatigant, non, d'avoir la tête qu'elle travaille tout le temps comme ça, non? ça sera peut-être pas bon pour la croissance, non? Il est un petit peu palo, votre François. J'ai trouvé, Madame Louis? Il serait pas malade, non? C'est là que j'ai commencé à me prendre pour un petit génie.
Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end brutal, en bagnole de fortune, variette mélo, à la radio, week-end brutal, Paris est sous la pluie.
C'était donc trois extraits tirés du livre de François Cavanna, L'Hérital, un livre paru en 1978 chez Belfond. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Au revoir.